on va lire deux textes, Romains chapitre 7 verset 14. Romains 7, 14. L'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On va lire aussi dans l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, au chapitre 15, les versets 34-35, et puis on continuera avec chapitre 16, versets 1 à 3. 1 Samuel 15, verset 34. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Amen. Nous trouvons ici le prophète Samuel dans un épisode très compliqué, très délicat de l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une période charnière. Pendant des années, Saül a été le roi en Israël. Son règne, Dieu le déclare, est terminé. Samuel est désarçonné par ce fait. Qu'est-ce qui va se passer? Comment gérer la situation? Samuel pleure. Pourquoi? Parce qu'il est devant un échec. Le règne de Saül se solde par un échec. Un échec personnel, parce que c'est quand même Samuel qui a oint Saül comme roi en Israël. Un échec pour tout le peuple de Dieu. Il est dans une séquence où il est prostré, il est figé, il est abattu, et il n'a même pas la force de parler, il pleure. Il pleure, sur Saül, il pleure sur tout ce règne, il pleure sur la situation présente, c'est une impasse devant ses yeux, il ne voit aucune solution, aucune raison d'espérer, il pleure. On ne sait pas combien de temps, mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, Dieu va lui parler. Et il va lui poser une question. Et Dieu va lui dire, quand cesseras-tu de pleurer? Et j'aimerais la répercuter ce soir à chacun d'entre nous. D'une certaine manière, Dieu pourrait nous adresser cette interpellation. Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de rester prostré face à tes problèmes, devant tes constats d'impuissance, devant ta problématique qui semble inéluctable? Quand cesseras-tu de pleurer? Parce que les larmes de Samuel étaient des larmes nostalgiques. Les larmes de Samuel le rattachaient au passé. Et Dieu va lui dire, après l'avoir interrogé, « J'ai rejeté Saül, et moi déjà, et je paraphrase, excusez-moi de paraphraser, mais c'est pour mieux comprendre, Dieu semble dire à Samuel, « Mais moi, je suis déjà en train de voir, j'ai une perspective qui me projette vers l'avenir, toi. » Tu es rattaché au passé et tu pleures sur le passé, mais moi je suis déjà tourné vers l'avenir parce que j'ai la solution. J'ai trouvé David. Je sais, enfin, j'ai trouvé celui qui correspond à mon cœur et que je vais établir comme roi. On pourrait dire, en paraphrasant encore, le plan Saül. Et terminé, il y a le plan David. Et toi, Samuel, tu es là au milieu et tu es tourné vers le passé, tu es tourné vers des larmes rétrogrades qui te ramènent nostalgiquement vers des choses révolues. Quand est-ce que tu vas couper les ponts avec ton passé? Quand est-ce que tu vas prendre la décision de te tourner vers l'avenir? J'ai intitulé ma prédication de la manière suivante, ça peut paraître un peu énigmatique, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce libellé. Trois bonnes réponses à trois vraies questions pour aller plus loin avec le Seigneur. Dans ce texte, ainsi que dans le tout premier, dans l'Épître aux Romains, il y a trois questions qui sont posées. La première, c'est Dieu qui la pose à David, quand cesseras-tu de pleurer? La deuxième, c'est donc Dieu qui pose à Samuel. La deuxième, c'est Samuel qui répond à Dieu, allez chez ce Bethléemite, mais comment ferais-je? Seigneur, tu me parles, tu m'interpelles et tu me dis qu'il faut que je me détourne et je me détache du passé pour entrer dans une nouvelle perspective, mais comment faire? Comment? Ça vous arrive souvent, vous, devant les circonstances qui se présentent en chemin, de vous dire comment je vais faire? Le comment. Et nous, on focalise sur le comment alors que Dieu insiste sur le quand. Parce que, mes frères et mes sœurs, le comment, il appartient à Dieu. On est bien d'accord? Pour Dieu, aucune problématique ne le perturbe, parce qu'il suffit qu'il dise, la chose arrive. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a jamais demandé de te charger du comment. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci encore. Chaque fois que le Seigneur va parler à votre cœur pour vous amener à aller plus loin avec lui, vous rencontrerez sur ce chemin-là le comment. Comment je vais faire? Mais c'est pas ni à toi, ni à moi, ni à nous d'assumer le comment. Le comment, c'est de la compétence de Dieu. Gloire à Dieu. Par contre, moi, je veux prendre à cœur, je veux considérer le quand par lequel Dieu m'interpelle. Mais Jean-Marc, tu vas rester tiède jusqu'à quand? Jean-Marc, combien de temps encore tu vas mettre pour te dégager de cet état qui t'empêche d'aller de l'avant? Le quand te concerne, me concerne. C'est à nous, par la foi et sous l'action du Saint-Esprit, de prendre une décision virile, mature. Pendant des années, Jacob, pendant des années, est resté prostré parce qu'on lui avait annoncé la mort de Joseph. Mais à un moment donné, lorsque on lui dit que Joseph est vivant, il dit « c'est assez maintenant. Maintenant, je me lèverai. » J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, c'est assez de ton état figé, bloqué. C'est assez de tourner en rond. C'est assez de t'épuiser à essayer de gérer tes combats, tes situations. C'est assez. Quand cesseras-tu de nourrir ton âme d'herbes amères? Quand cesseras-tu de tenir en toi des raisonnements qui te tirent vers le bas? Quand décideras-tu de te détacher du passé pour entrer dans les perspectives de Dieu et pour aller plus loin avec le Seigneur? Qui veut aller plus loin avec le Seigneur parmi nous? Deux, trois... Je pense que tous nous voulons. Hein. Eh bien, si nous le voulons, ne soyons pas surpris de rencontrer en chemin le comment. Mais comprenons que le comment, c'est Dieu qui s'en charge. Nous avons, dans les années 94, 15, 16, fait des travaux relativement importants dans une ville en Haute-Savoie. Et bien sûr, qui dit travaux, dit budget financier, dit compétences en construction, je ne vous cache pas que j'ai eu deux ou trois séances de conseil d'administration un peu tendues quand même. Tout simplement à cause de la question comment. Comment? Dans ces cas-là, ça vient très facilement, la question. Comment? Comment? Et je réentends ce cher frère, vraiment, que j'aime tellement, qui a lancé comme un défi. Je le réentends dire, « Pasteur, ne serait-ce que l'équipement en radiateur de toutes les salles, ça vous fait une enveloppe. » Et il a donné un chiffre, mes amis, ça nous a, on était bien assis, heureusement. « Alors comment ?» Dit frère, je n'ai pas la réponse à cette question parce qu'elle ne m'appartient pas. Dieu sait qu'on va avoir besoin de radiateurs. Je ne peux pas vous répondre, mais calmez-vous, quoi. On termine la séance, on rentre. Moi, je dors comme un bébé, malgré tout. Et lundi matin, frères et sœurs, un de nos jeunes qui travaillait dans la société Obad, c'est une grosse enseigne hein, de radiateurs, de produits sanitaires, des lavabos, des trucs, me téléphone, me dit « Monsieur Tcherkessian, on vient de changer de directeur. Et le nouveau directeur, ce matin, a voulu faire le tour des magasins, des stocks, des entrepôts, etc. Et il a remarqué dans un coin deux palettes de radiateurs sous plastique, neufs. Avec deux cartons de tous les équipements, purgeurs, petits robinets, les joints, même les petits joints en caoutchouc, tout, Et il nous a interrogés en disant, mais c'est quoi ces palettes? Alors on lui a dit, ben monsieur, c'est un retour d'un client belge, que Dieu bénisse la Belgique, vraiment, c'est un retour de client belge. Et le directeur nous dit, jetez-moi ça à la benne. Et le jeune frère me dit, ça vous intéresse? Je lui dis, sans problème, on est preneur. Écoutez, mes frères et mes sœurs, avec ces deux palettes, on a équipé toutes les salles, la salle principale, toutes les annexes, l'appartement. On avait tout, les colliers, les joints, les purgeurs, on avait tout. Il nous en est resté. Et en bon arménien, moi j'ai vendu le reste. Quand même. Il y a des chromosomes qui restent encore actifs, vous voyez. Et finalement, on a tout eu gratos et on a même eu de l'argent. Et j'ai été confondu devant le Seigneur. Confondu. Seigneur, le comment t'appartient. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas à gérer le comment. Confie-le à ton Père Céleste. Il va t'émerveiller. Il va t'étonner. Et toi, ta foi va grandir. Au tout début de ma formation pastorale, j'avais 24 ans, là, et mon formateur me confie une mission. C'était la première mission du jeune pasteur stagiaire que j'étais. Et je lui dis, frère, comptez sur moi, il n'y a pas de problème. C'était quoi la mission ? C'était d'aller chercher à la mairie de ma commune, à Rieux, la clé de la salle des fêtes, parce que dans le week-end, une chorale allait y faire de l'évangélisation. Comptez sur moi, je vais à la mairie, je réserve la salle. Tout est impeccable. Le jour J arrive, l'instant T approche, la chorale est là, dans un bus à étage, grande chorale, sur le parking, je gare ma 4L, je sors, et je vais pour ouvrir la porte, et là, un accablant moment de solitude. Je m'aperçois que j'ai oublié de prendre la clé. C'était un week-end, les bureaux étaient fermés, je n'avais aucun téléphone, aucun moyen. Alors là, mon cœur a cessé de faire boum boum, mais il a dit comment ? Comment je vais faire ? Il pleuvait, une pluie complètement lyonnaise a détrempé les pelouses dans mon quartier. Il y avait des flaques partout, j'étais détrempé. Et j'avais un jeune, je dis, écoute, fais patienter la chorale, qui commençait un peu à s'impatienter, c'était une chorale du Sud, vous voyez, donc l'esprit corrida n'était pas loin. Fais-les patienter, je vais aller dans les immeubles, je vais sonner au rez-de-chaussée des immeubles, voir s'il n'y a pas un concierge, un gardien, quelque chose. Et j'ai couru, j'ai traversé les pelouses, alors là, marcher sous les pelouses, j'y suis allé, hein. Dans les flaques d'eau, j'étais trempé, et j'ai fait tout le tour de cette immense zuppe de Rieux, bredouille. Et j'ai vu l'heure, il y avait déjà une demi-heure qui avait passé l'heure de la réunion, et je me suis dit, arrête de courir, et je suis rentré en me disant sur le chemin, comment je vais leur expliquer ça? Comment je vais expliquer à mon pasteur responsable? Comment je vais me sortir de... J'arrive, essoufflé, trempé, et j'arrive, la porte est ouverte. Et à travers la porte ouverte, j'entends la chorale chanter. J'entre dans la salle des fêtes, je vois un auditoire nombreux, assis paisiblement, rayonnant, se régalant de ces moments. La chorale rayonne, tout le monde rayonnait, sauf Et je me suis assis, j'étais devant un miracle, je comprenais rien. La réunion se termine, la chorale rentre et je vais voir ce jeune homme. Je dis, comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Jean-Marc, j'ai rien compris. J'étais en train de comme tu m'as dit, de calmer les gens, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Et je me suis retourné, c'était une femme. Elle m'a dit, c'est ça que vous cherchez? Alors, elle avait une clé. Alors, je prends, je mets, je tourne, ça marche, je me retourne pour la remercier. Elle avait disparu. Et voyez-vous, d'avoir vécu une expérience comme celle-ci et bien d'autres encore, ça m'a enseigné que le comment, il appartient à Dieu. Tout le temps que tu passeras à gérer le comment, ce sera du temps perdu. Ce sera du temps où tu n'avanceras pas, tu n'iras pas plus loin dans les perspectives dans lesquelles le Seigneur voudrait t'entraîner. Le plan Saül, c'est fini. Maintenant, il y a le plan David. Mais quand on veut entrer dans le plan David, il y a le comment. Ce soir, abandonne tes comment entre les mains du Seigneur. Remets-lui ton problème, confie-lui ta problématique. Que le Seigneur soit béni. Quand cesseras-tu de pleurer, de nourrir un état déprimé? Entre plus loin maintenant dans mes perspectives glorieuses. Mais comment, Seigneur? Comment? Et j'arrive ici à ma troisième question. C'est l'apôtre Paul qui la pose. Dans un des écrits les plus intenses, les plus personnels, il est en train de partager avec nous ses combats spirituels. Vous avez lu avec moi, hein, cet homme qui a connu toute une période de crise, d'incompréhension. Il veut plaire à son Dieu et il n'y arrive pas. Il sait ce qui est bien et il veut le faire et il sent en lui une force plus grande que sa bonne volonté et qui l'empêche de faire le bien. Et le mal qu'il ne veut pas faire, la même force, la loi du péché en lui, l'oblige à le faire. Là aussi, on ne sait pas combien de temps ça a duré son combat. Peut-être des mois. Et au terme de ce combat, une question. Une vraie question, avec la bonne réponse. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et moi, voyez-vous, ça me renseigne sur un déclic qui s'est produit chez Paul. Il ne puise plus dans ses ressources personnelles pour plaire à Dieu, mais il cherche quelqu'un. Qui? Il a compris une chose. C'est que par lui-même, il ne pourra jamais satisfaire aux exigences de Dieu. Et il y a des chrétiens, et j'ai l'impression beaucoup de chrétiens, beaucoup trop de chrétiens, qui cherchent à plaire au Seigneur par eux-mêmes. Ils sont là, tendus, ils concentrent leur vigilance, leurs efforts pour plaire au Seigneur. Et puis, inexorablement, au bout, c'est l'échec. Dis-toi une chose, tu ne pourras jamais plaire au Seigneur par tes propres forces. Tu n'y arriveras jamais. Paul a essayé. Et sa conclusion, misérable que je suis. Et maintenant, il cherche ailleurs quelqu'un, une tierce personne qui va venir à son aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et en posant cette question, Dieu lui donne la réponse, la bonne réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça change tout, mes amis. Il a fallu qu'un jour je comprenne moi-même que pour réussir à plaire à mon Dieu, je ne devais pas me focaliser sur mes lacunes, mais je devais me focaliser sur Jésus-Christ. Parce que, mon frère, ma sœur, plus tu aimeras Jésus, plus Jésus régnera en toi, et plus tu expérimenteras ce miracle en toi. Ce que tes énergies, ta bonne volonté, ta force de caractère n'auront jamais réussi, Jésus, en toi, l'aura accompli. Et ça, c'est la définition de la grâce. La grâce, c'est comme si le Seigneur nous disait « Ce que tu ne pourras jamais faire, moi, je vais le faire en toi et je vais le faire pour toi. » Si tu veux expérimenter cette délivrance de la loi du péché, la loi du péché, le péché, c'est pas que le péché hideux et effroyable. Le péché, c'est tout simplement une loi de la chair, c'est faire les choses par moi-même, vous voyez. Eh bien, tant que j'essayerai par moi-même, ce sera l'échec, la honte et la culpabilité. Mais dès l'instant où je comprends que porter mes regards sur mon Sauveur bien-aimé, l'adorer, le louer, l'aimer, le contempler et tendre à lui ressembler, ça permet à Jésus de faire en moi ce que moi, je ne pourrais pas faire. Personne ici n'a essayé, par exemple, de changer son caractère. Vous savez, je ne suis pas le seul quand même. Vous n'êtes jamais dit, t'es un peu colérique, toi. Fais attention quand même. Et vous avez essayé. Ça a marché 48 heures, 72. Votre record, c'est combien? Puis, inévitablement, il y a un moment, c'est la goutte de trop et poum, tous nos efforts, poum. Un jour, il y a un jeune homme chrétien qui avait soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et chaque fois que le pasteur disait, voilà, on a un moment où on a prié, il venait et il ne recevait jamais le baptême dans le Saint-Esprit. Oh. Et puis, là, cette fois-ci, il savait que ce dimanche, en fin d'après-midi, il y avait un temps comme ça, et toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche, toute la semaine, il s'est dit, je vais vraiment veiller sur moi. Lundi, mardi, toute la semaine. Il a fait attention, pas de colère, pas de mauvaises paroles. Lecture de sa Bible tous les jours, c'est pas mauvais hein, tout ça, attention, hein. Mais là, il était là. Arrive le dimanche, il est dans le bus, il va à l'église, il y avait plein de monde, le chauffeur donne un coup de frein brusque, les gens se bousculent, il y en a un, 120 kilos, il lui marche sur les pieds, et il se met en colère. Sur le chemin de l'église, il se met en colère. Et off, il s'est dit, oh là là, ben c'est fini quoi, c'est fini. Tous tes efforts de la semaine, c'est fini. Mais comme il était à deux arrêts de l'église, il est allé quand même à l'église. Eh bien, frères et sœurs, c'est ce soir-là que le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce soir-là, il est venu vers le Seigneur en disant, je ne mérite rien Seigneur, tu me connais, mais j'ai soif. Il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en langue, il est rentré, c'était plus un bus qu'il avait, c'était une fusée Ariane, c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais vous voyez, c'est la notion de la grâce, c'est Jésus qui fait en moi et pour moi ce que mes efforts ne pourront jamais faire. Je terminerai ce message, frères et sœurs, avant d'avoir deux minutes de prière tous ensemble pour nous exposer à la grâce de Dieu. Contre Saül et David, je reviens à cette deuxième lecture, il y a une différence notoire qui est en relation avec l'onction. Vous savez que dans l'Ancien Testament en Israël, il y avait trois personnages particuliers qui recevaient une onction, le prophète, le sacrificateur et le roi. Et si je fais une comparaison entre l'onction administrée sur Saül et celle sur David, il y a une différence frappante. Pour Saül, Samuel vient et il sort une fiole d'huile et publiquement il oint Saül et tout le monde sait officiellement c'est le roi. Une fiole d'huile. La fiole a deux caractéristiques. Première, c'est une petite potiche qui a été exécutée par les mains d'un artisan. C'est donc le produit du savoir humain. Et c'est une potiche de petite capacité. Il n'y avait pas beaucoup d'huile. Et ceci me parle de deux choses. C'est que malgré cette onction, je dirais protocolaire, officielle, l'humain gardait une place majeure. Et l'huile était en petite quantité, je parlerai ici de superficialité. Pour David, c'est complètement différent. Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile, ta corne d'huile. La corne en question, probablement la corne d'un bélier, ce n'est pas les mains de l'homme qui la fabrique. On l'obtient au prix d'un sacrifice. Un bélier a été sacrifié et on a prélevé ces deux cornes, on en a fait des contenants et c'est avec cette corne, avec une capacité de contenance bien supérieure à la petite fiole, on a mis de l'huile. Et là, mes amis, quand Samuel a oint David, c'était une abondance d'huile qui coulait sur sa tête, ses épaules et sur toute sa personne, une onction abondante avec cette projection déjà d'un sacrifice. Il y a eu un sacrifice. Il y a deux sortes d'évangiles. Il y a l'évangile facile, émotionnel et superficiel, c'est pas le vrai évangile. Puis il y a l'évangile du Seigneur. L'évangile de Dieu, qui a comme point central et comme source de bénédiction un sacrifice. Je peux être béni des meilleures bénédictions du ciel, je veux toujours rappeler à mon cœur que toutes ces bénédictions sont possibles parce qu'un sacrifice a eu lieu. C'est celui de Jésus, mon Sauveur bien-aimé. Et de cette onction, une abondante effusion va couler sur David et nulle part, il n'est mention pour Saül d'un renouvellement d'onction, jamais, nulle part. Donc, ce qui a perdu Saül, c'est la proéminence de l'humain. D'ailleurs, il s'est fait un monument, c'est l'orgueil, c'est le charnel, c'est l'humain, voilà. Par contre, David a été oint chez son père, Isaïe, il a été oint à Hébron, il a été oint à Jérusalem, et dans le psaume 90, il est écrit « Je suis arrosé d'une huile fraîche, je veux parler d'une onction abondante, quotidiennement renouvelée. » Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés, chacun pour sa part, à vivre dans un renouvellement régulier et abondant de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit « L'onction fera sauter le joug ». Il y a trop d'enfants de Dieu qui sont sous des jougs. Et encore une fois, c'est pas nos efforts qui nous sortiront du joug, c'est l'onction abondante du Saint-Esprit. Rien ne remplacera un moment béni où tu vas être rempli de cette huile du Saint-Esprit. Est-ce que tu as parlé en langue aujourd'hui ? Hier, il y a une semaine, l'année dernière, en tout cas, c'est une huile fraîche. Dieu aimerait que tu puisses dire, toi aussi, je suis arrosé d'une huile fraîche. L'onction d'hier a été certainement merveilleuse, mais c'est celle d'aujourd'hui que je veux vivre. Je veux en permanence être sous l'effusion du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit surpassera les meilleures prédicateur, prédication, l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous dit que cette onction, elle nous enseigne intérieurement, elle nous éclaire, elle nous dirige, elle nous donne du discernement, de comprendre ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Cette onction va nous diriger. Le Saint-Esprit venant, va dire Jésus, vous conduira dans toute la vérité. Est-ce qu'on ne pourrait pas terminer ce moment en réclamant tous ensemble, Seigneur, répands ton onction sur ma vie.